Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Une enquête préliminaire du parquet national financier vise Édouard Philippe et une adjointe au maire du Havre. Des perquisitions ont été menées à l'hôtel de ville. Nous ferons le point sur cette affaire avec Stéphane Robert. Des salariés du groupe SEB manifestent leur opposition à la proposition de loi contre les PFAS, ces molécules surnommées polluants éternels que l'on retrouve notamment dans des ustensiles de cuisine. Reportage de Talita Thierro. État d'urgence à Van en Turquie. À l'issue des municipales, la commission électorale a décidé d'attribuer la victoire à l'AKP alors que les Kurdes l'avait largement emporté, ce qui crée de fortes tensions. Et puis la Commission européenne annonce des enquêtes visant des fabricants de panneaux solaires. Selon Bruxelles, les subventions touchées par ces filiales de groupes chinois pourraient constituer une concurrence déloyale. C'est une affaire potentiellement embarrassante pour Édouard Philippe, dont on connaît les ambitions pour 2027. Une enquête du parquet national financier vise notamment l'ancien Premier ministre et des perquisitions ont été menées aujourd'hui à la mairie du Havre qu'il dirige, ainsi qu'au siège de la communauté urbaine. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Cette enquête avait été ouverte en décembre 2023 après le dépôt d'une plainte contre l'attribution d'une importante subvention à une association dirigée par l'une des adjointes d'Édouard Philippe à la mairie.
Oui, la plainte a été déposée en septembre de l'année dernière par l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre. Cette plainte vise Édouard Philippe et son adjointe à l'innovation et au numérique à la mairie, Stéphanie de Basler. Dans la foulée, le parquet national financier a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et concussion. Ce que la plaignante reproche au maire du Havre, c'est d'avoir attribué la gestion de la cité numérique de la ville à une association baptisée LH French Tech, dirigée par son adjointe, Stéphanie de Basler, et que cette attribution a donné lieu à l'octroi d'une importante subvention d'un peu plus de 2 millions d'euros. Par ailleurs, elle signale que Stéphanie de Basler a perçu pendant un an une double rémunération pour sa fonction d'adjointe d'une part et d'autre part pour un poste de directrice de l'école de management de Normandie, une école hébergée à la Cité du Numérique. Les services juridiques de la métropole du Havre ont alerté à plusieurs reprises sur le risque de conflit d'intérêts que constituait cette situation. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Stéphanie de Basler à quitter la direction de l'association LH French Tech à l'été 2021. Par la suite, la métropole a dénoncé le contrat qui la liait à l'association et celle-ci, au bout du compte, a été placée en liquidation judiciaire en avril 2023. C'est donc sur cette affaire un peu complexe qu'enquête le parquet national financier. Il faut aussi signaler que la plaignante, ancienne directrice adjointe de la communauté urbaine, a été embauchée en 2020 en contrat à durée déterminée, que ce contrat s'est interrompu en avril 2023, qu'il n'a pas été renouvelé par Édouard Philippe à cause, justifie-t-il, d'un défaut d'expertise et d'implication. C'était 5 mois avant que l'ex-directrice adjointe ne dépose plainte contre son ancien employeur.
Stéphane Robert, une séance de questions au gouvernement d'un nouveau genre à l'Assemblée. Gabriel Attal expérimente jusqu'à fin mai une formule censée redonner du tonus à cet échange hebdomadaire. Le Premier ministre répond seul aux députés. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Cet après-midi, le chef du gouvernement a eu en face de lui des parlementaires assermentés et la séance a été ponctuée de quelques passes d'armes.
Sur les écrans de l'Assemblée, comme dans la bouche de la présidente de l'institution, les mots ont changé. On ne parle plus de séance de questions au gouvernement.
L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre.
La situation de l'entreprise Atos, les finances publiques, le pouvoir d'achat, les groupes de niveau à l'école, les polluants éternels. Le Premier ministre répond à tout avec son sens de la formule.
C'est toujours surprenant de vous entendre parler de responsabilité budgétaire. Vous nous parlez de Mozart, de la finance. Avec vous, ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. C'est pas la peine d'essayer de hurler pour m'empêcher de parler.
Et si l'enfiline à une, les casquettes des différents ministres du gouvernement, ce n'est pas de son fait, rappelle Gabriel Attal.
La présidente de l'Assemblée nationale m'a proposé de répondre aux questions dans ce nouveau format. J'accepte toujours les propositions qui me sont faites, s'agissant des comptes que je dois rendre en tant que Premier ministre vis-à-vis de la représentation nationale et de la presse. Et donc je suis ravi de pouvoir expérimenter ce nouveau format. Nous verrons s'il permet de revivifier cette séance du mercredi.
Il y avait d'ailleurs plus de députés dans l'hémicycle que la semaine dernière, assure l'entourage du Premier ministre, chiffres à l'appui. La patronne des lieux, Yaël Braun-Pivet, sort satisfaite.
Je trouve que c'est une belle première.
Mais à gauche, on critique. Ici, le communiste Fabien Roussel et l'insoumis Alexis Corbière.
C'est un numéro de claquette du Premier ministre, c'est grand guignol, c'est un numéro de cirque.
Moi, j'ai appelé ça le One Gap Show, voilà, c'est un stand-up.
Le RN Kevin Mauvieux abonde.
On se croirait dans une arène de meeting avec un Premier ministre candidat aux élections présidentielles.
Et même dans la majorité, les réserves sont toujours là. Le député Modem est Juan Balanon.
On a un Premier ministre qui est super à l'aise et on le savait. Maintenant, moi, je suis contre cette formule. Elle va dans le sens d'une dérive de nos institutions. constitution, qui est toujours plus de concentration des pouvoirs. Et je ne suis pas sûr que ça soit satisfaisant pour la démocratie.
Les présidents de groupe en jugeront ensemble à l'issue des 5 séances test à la fin du mois prochain.
Rosalie Lafarge à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, Gabriel Attal a notamment annoncé la publication d'un décret d'ici un mois pour généraliser le service d'accès aux soins, nouveau SAMU chargé de désengorger les urgences en réorientant certains patients vers la médecine de ville. Et face à la croissance des déserts médicaux, il promet de réunir prochainement les doyens, présidents d'universités et agences régionales de santé pour créer davantage de places pour les étudiants en médecine. Le député Renaissance Quentin Bataillon essuie une pluie de critiques, des appels à la démission à gauche et reçoit un rappel à l'ordre de la présidente de l'Assemblée nationale. Le président de la commission d'enquête sur les fréquences télé est dans le viseur après son passage hier dans l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8, émission animée par Cyril Hanouna, lui-même auditionné par la commission. Les reproches ont été avivés par le fait que l'élu de la majorité présidentielle a critiqué le concurrent de Cyril Hanouna, l'animateur Yann Barthès, qu'il avait également auditionné. Pour le rapporteur de cette commission d'enquête, l'insoumis Aurélien Saint-Toul, Quentin Bataillon a commis une série de fautes.
Il n'a pas traité de fait. Il a dit tranquillement à Cyril Hanouna, je pense que vous-même vous respectez les règles. Eh bien non, Cyril Hanouna et TPMP sont les émissions, les personnes les plus sanctionnées du PAF. Donc je ne reproche pas à Quentin Bataillon d'avoir un avis. Il est notoire que nous n'avons pas eu le même. Durant les auditions, lui et moi, on n'a pas partagé les mêmes appréciations, y compris sur la pertinence de mes questions. Mais je crois qu'au bout du compte, son rôle de président était plutôt de garantir au rapporteur d'obtenir des réponses que de lui fermer la bouche. D'une certaine façon, il a cherché à se substituer au rapporteur. Il a participé à une campagne de communication. Il a, à mon avis, aussi contribué à baisser un peu nos fonctions parce que quand il se fait offrir un t-shirt qui relève du gag pour Cyril Hanouna, je crois qu'il ne rend pas justice au sérieux de nos travaux. En agissant ainsi, il a jeté le discrédit sur l'ensemble de la commission d'enquête. Moi, j'ai vu de nombreux commentaires précisant que désormais, l'ensemble de la commission d'enquête était frappé d'un doute. On pensait qu'il y avait une forme de complaisance à l'égard de Cyril Hanouna et que c'est le rapport lui-même qui, au bout du compte, ne serait pas crédible. Donc je crois qu'il a manqué de réserve et que ce faisant, il nous a mis dans une situation compliquée. Donc le mieux serait quand même sans doute qu'il démissionne.
Aurélien Saint-Toul, député des Hauts-de-Seine, La France Insoumise et rapporteur de la commission d'enquête TNT. Les députés doivent débattre demain d'une proposition de loi écologiste sur les PFAS. Le texte vise à restreindre l'utilisation de ces molécules qualifiées de polluants éternels car elles ne se dégradent pas et on en retrouve disséminées dans la nature jusque dans les neiges de l'Antarctique. Mais le gouvernement se dit réservé au sujet de cette proposition de loi qui suscite par ailleurs la colère du groupe SEB. Cet après-midi, quelques 600 salariés du géant de l'électroménager ont manifesté devant l'Assemblée, venus en bus de toute la France avec le soutien de leur direction. Vous êtes allé à leur rencontre, Talita Thierro.
Sauvons nos poils made in France, touche pas à ma poêle, c'est ce qu'on peut lire sur des pancartes. En chœur, les manifestants entonnent. Plus de PFAS d'ici 2025. Le délai est beaucoup trop court, selon un manifestant. Il travaille depuis 25 ans à Tefal, à Rumilly, en Haute-Savoie. Avec cette proposition de loi, il risque de perdre son emploi.
On laisse du délai à beaucoup d'entreprises. Nous, on nous laisse moins d'un an. Et je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on voudrait clouer au pilori une industrie. Il ne faut pas non plus vouloir détruire nos emplois. Sous prétexte que l'on utilise des PFAS dans notre industrie, on ne pourrait plus commercialiser, on ne pourrait plus vendre, fabriquer. Grosso modo, on met l'usine à l'arrêt.
Sans ces salariés, la vie de la commune serait aussi à l'arrêt, selon Christian Dulac, maire de Rumilly, là où 1500 emplois sont menacés.
Pour nous, si ça arrive, c'est une tragédie économique. Parce que ça représente beaucoup de choses, Stéphane. Un acteur qui intervient financièrement pour les associations, pour les établissements publics, les écoles, on ne leur laisse pas le choix. Pour moi, c'est catastrophique.
Une catastrophe écologique aussi, selon les scientifiques. Les PFAS sont des substances chimiques quasi indestructibles. Elles s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, d'où leur surnom de polluant éternel. Mais les PFAS utilisées par Tefal ne sont pas dangereuses pour la santé, selon Thierry de la Tour d'Arthèse, président du groupe SEB.
Ce sont ce qu'on appelle des polymères, des chaînes qui sont assez lourdes et donc qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau, rien. Et donc elles ne présentent aucun enjeu. Donc nous on dit simplement interdisons les mauvais PFAS, autorisons les bons PFAS.
Au total, 3000 emplois sont menacés sur 6000 en France dans le groupe SEB et Tefal.
Talita Tierro. Le procès de deux figures du Pays Basque qui voulaient neutraliser l'arsenal de l'ETA touche à sa fin avec cet après-midi les réquisitions du parquet national antiterroriste. Jean-Noël Etcheverry, surnommé Tchotch, et Béatrice Moll comparaissent pour port, transport et détention d'armes en lien avec une organisation terroriste. Tous deux ont été arrêtés en décembre 2016 en possession d'une partie de l'arsenal d'ETA et ils encourent 10 ans de prison. La procureure de la République a été plus clémente. Elle a requis 2 ans de prison avec sursis contre Jean-Noël Etcheverry, 1 an contre Béatrice Moll, mais dans ses réquisitions, elle a voulu démontrer point par point que les faits reprochés à ceux que l'on appelle aujourd'hui les artisans de la paix sont caractérisés et qu'il faut donc une condamnation, Cécile Arnal.
Oui, plusieurs faits sont établis dans ce dossier à Seine-Aurélie Valente et ils ne sont pas contestés d'ailleurs par les prévenus. C'est l'importance et la dangerosité des armes retrouvées à Louossoa. Ces armes, dit-elle, étaient en parfait état de fonctionnement et possédaient une force létale certaine. Cela traduit la particulière violence d'ETA. ETA, rappelle-t-elle à plusieurs reprises, est un groupe terroriste à qui l'on impute 800 morts. ETA qui a mené la danse, selon elle, en protégeant ceux qui allaient rendre les armes. On ne saura jamais qui ils sont, le procès ne l'aura pas permis. Juridiquement, dit-elle encore, les faits reprochés à Jean-Noël Etcheverry et Béatrice Moll sont caractérisés. Ils ont transporté des armes, ils ont détenu des armes et en France, c'est illégal. Pour autant, elle insiste, la justice n'est pas aveugle et doit être mesurée et pondérée. La question, c'est la juste peine. Elle demande du sursis donc et une non-inscription au FIJET, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes. À ses yeux donc, Tchotch et Béatrice Moll ne sont pas des terroristes.
Céline Arnal de France Bleu Pays Basque. La commission indépendante sur l'inceste va-t-elle repartir sur de meilleures bases ? Le travail de la CIVIS, d'abord mené par le juge Édouard Durand, avait été salué. La commission avait recueilli près de 30 000 témoignages et émis 82 recommandations. Son travail a donc été prolongé, mais le magistrat a lui été remercié. La succession a été difficile, le nouveau président et sa vice-présidente ont rapidement démissionné. On apprend aujourd'hui que la CIVIS va reprendre ses travaux avec à sa tête une direction collégiale. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir.
Alors plus précisément, il s'agit d'un quatuor diversement apprécié par les associations.
Soyons précis d'abord à la tête de la CIVIS, Maryse Lemont-Régnier, ex-magistrate et présidente de la Fédération France Victimes, Thierry Bobet, chef du service de psychopathologie de l'enfant à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Solène Podevin, présidente de Face à l'inceste, et Bruno Quetel, ancien député et maire lui-même victime d'un viol étant enfant. La composition de ce comité directeur rassure Laurent Boyer, président fondateur de l'association Les Papillons.
Ce sont des personnes qui peuvent garantir cette forme d'indépendance. Et puis, on a vraiment cette impression qu'on va vers une forme de respect de ce qui a été fait, de respect de ce qui a été dit auparavant. Et ça, c'est important. On est dans la même trempe que le juge Édouard Durand. Donc, c'est ça qui doit être de nature à rassurer les victimes. C'est que moi, j'ai vraiment cette impression qu'on est dans une continuité, une sorte de passation qui se fait dans le respect. Donc, c'est en ce sens qu'il faut être rassuré et il faut laisser cette chance à cette nouvelle équipe dorénavant.
La CIVIS repart et c'est souhaitable, amorce Arnaud Gallet de la structure Move Enfant, non sans douter du renouvellement de la commission.
On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en fin de compte, ce sont les mêmes membres de la CIVIS 2 et puis ils ont renforcé ce comité par un ancien député. Mais l'indépendance, elle est où, en fait? Alors moi, j'ai rien contre Bruno Quetel, bien au contraire. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'on met un homme politique proche du pouvoir et on parle d'indépendance. On avait le sentiment que la question de l'indépendance, c'est pour ça, à mon sens, que Édouard Durand avait été évincé. Est-ce que la CIVIS est réellement indépendante? Voilà. C'est la question que je me pose face surtout au silence et à la culture du déni qui est celle du gouvernement, quoi.
Move Enfant ainsi que d'autres structures ont écrit à la présidence de la République pour faire valoir les fameuses recommandations Aurélie de la CIVIS du juge Durand en vain, d'où la colère. Reprise des travaux au sein de la CIVIS mardi prochain.
Mathieu Laurent. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN discutent une nouvelle fois de l'Ukraine. Ils se demandent comment inscrire l'aide à l'Ukraine dans la durée et examinent des propositions visant à mettre en place un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Sur le front, les troupes ukrainiennes sont toujours en difficulté face à l'armée russe. Le président Volodymyr Zelensky s'est donc résolu à élargir la conscription. Le texte a été promulgué hier soir. L'âge de la mobilisation est abaissé à 25 ans contre 27 jusqu'à présent. Comment les premiers concernés réagissent-ils ? Reportage à Kiev d'Agathe Mahué.
Personne ici ne tombe des nues, explique Nazar, qui a 24 ans, serveur depuis un an dans ce restaurant de Kiev.
Ce n'est pas une nouveauté, on n'est pas surpris, ça fait des mois qu'on s'y prépare. Avec mes amis, hier soir, on n'a même pas réagi à cette annonce, c'était attendu.
Nazar, dès l'année prochaine, pourra donc être appelé à servir son pays, et il l'accepte, car le jeune homme comprend l'importance de rajeunir les troupes, 43 ans d'âge moyen actuellement dans l'armée ukrainienne, même s'il redoute que sa génération soit privée de projets pour l'avenir. Surtout, il se pose des questions sur ce recrutement à venir.
Ce dont j'ai peur, moi, ce n'est pas tant d'être mobilisé, mais c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui m'attend dans l'armée ? Est-ce qu'on va m'envoyer mal préparé sur la ligne zéro ? Ou bien est-ce qu'on va me former sur une spécialité que je vais pouvoir choisir ?
Et puis, est-ce que l'on sera bien tous égaux face à cette mobilisation ? S'interroge Nazar. Il espère qu'aucun jeune Ukrainien n'obtiendra de privilèges ou de dérogations grâce à ses relations.
Agathe Mahué avec Yachar Fazilov à Kiev. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu. Sébastien Lecornu rappelle la ferme condamnation par la France de l'attaque survenue le mois dernier à Moscou, mais il condamne aussi sans réserve la guerre d'agression russe en Ukraine. En Turquie, trois jours après les élections municipales, des heurts ont éclaté dans les régions remportées par le parti kurde, le DEM. C'est à Van, près de la frontière avec l'Iran, que se concentrent les inquiétudes et les violences. Dans cette ville, la commission électorale déclare victorieux l'AKP, le parti au pouvoir, alors que son candidat n'a remporté que 27% des suffrages face au candidat kurde, large vainqueur avec 55% des voix, mais dont la candidature a été invalidée au tout dernier moment, Marie-Pierre Véro.
Gaz lacrymogène, gaz poivre, les manifestations ont débuté dès hier dans la grande ville de l'Est lorsque la commission électorale a annoncé qu'elle remettait le mandat de maire de Van au parti du président Erdogan, pourtant largement défait dans les urnes par Abdullah Zeidan. Des dizaines d'arrestations, la région placée sous état d'urgence, les policiers des villes environnantes dépêchés pour boucler Van, mais la contestation ne faiblit pas. Nouvelle manifestation aujourd'hui, les commerçants du centre-ville ont baissé leurs rideaux en solidarité. Une foule s'est rassemblée devant les bureaux du parti kurde, au cri notamment de Erdogan dictateur, AKP terroriste, le coprésident du parti kurde Tuncer Bakeran.
Van est le cœur du Kurdistan. Personne ne peut interférer avec la volonté des habitants de Van. Nous ne le permettrons pas. Tant que vous serez ici, ensemble, avec honneur, malgré toutes les pressions, malgré les matraques, les fusils et le gaz poivre, ni leur coup politique, ni leur coup judiciaire ne réussiront.
Les dirigeants des partis d'opposition sont venus apporter leur soutien au parti kurde. Les manifestations ont gagné d'autres grandes villes de la région, Sirte, Batman, Sernak, mais aussi Izmir et Istanbul. Le maire İmamoğlu demande le respect de la démocratie. Depuis sa prison, l'ancien leader kurde Demirtas en a lui appelé au président Erdogan, lui rappelant qu'au soir de sa défaite, il s'était engagé à respecter le verdict des urnes.
Marie-Pierre Véro, correspondante de France Culture à Istanbul. Après l'automobile et le rail, les panneaux solaires chinois se retrouvent dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles annonce l'ouverture d'une enquête contre deux groupes chinois pressentis pour concevoir et exploiter un parc photovoltaïque en Roumanie. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Les Européens utilisent leur nouvel arsenal législatif visant à contrer les subventions étrangères.
Oui, l'Union européenne, il faut le savoir, importe 97% de ses panneaux solaires, imbattables en prix car ils viennent massivement de Chine. La filière photovoltaïque est massivement subventionnée. Alors pour lutter contre cette concurrence déloyale, la Commission dispose désormais d'une nouvelle arme réglementaire. Les entreprises qui répondent à un appel d'offres public européen de plus de 250 millions d'euros et qui bénéficient d'un certain montant de financement étranger doivent le notifier. LONGi est le premier fabricant mondial de panneaux solaires. Shanghai Electric est une société d'État. Les deux groupes chinois sont donc dans la course pour concevoir ce vaste parc photovoltaïque en Roumanie. Ils l'ont donc signalé à Bruxelles. L'enquête en cours doit permettre d'identifier si la façon dont ils ont été subventionnés fausse le marché. Une concurrence loyale est fondamentale pour attirer la recherche et les investissements sur le marché solaire européen, indique la Commission, qui pourra, à l'issue de son enquête, empêcher ces deux entreprises de remporter l'appel d'offres. Récemment, les Européens ont fait de même avec le numéro 1 mondial du train, le chinois CRRC, qui s'est finalement finalement retirée d'un marché public en Bulgarie. Grâce à une autre réglementation, la commission enquête aussi sur les subventions publiques accordées aux voitures électriques chinoises. Moins naïf face aux géants asiatiques, l'Europe s'efforce donc de défendre ses intérêts, mais en prenant le risque d'ouvrir une guerre commerciale avec Pékin. La Chambre de commerce chinoise dans l'UE se dit ce soir gravement préoccupée par ces enquêtes et dénonce, je cite, un pouvoir discrétionnaire excessif accordé à la commission.
Merci Angélique Boin, vous étiez en direct de Bruxelles. Le temps sera perturbé sur la moitié nord de l'Hexagone demain avec parfois des giboulées orageuses, peu de pluie en revanche sur la moitié sud et du soleil de l'Aquitaine à la Provence. Au lever du jour, les températures iront de 4 à 12 degrés, les maximales varieront entre 15 et 19 sur la moitié nord, entre 20 et 26 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Et à 18